Chapitre 5. Le lendemain, M. Dubarral s'absentait toute la journée. M. Baladier le remplaçait dans les affaires courantes et recevait les clients. Quand j'allais le trouver pour lui remettre des copies, il rôdait dans le cabinet de M. Dubarral avec l'hésitation d'un malfaiteur qui recule devant l'exécution d'un projet dangereux. Je lui donnai mes papiers et lui se prépara à me remettre un de leurs affreux grimoires en me priant de le taper pour 3 heures. « J'ai besoin du double qu'une personne viendra chercher. »« Ce sera prêt, » dis-je avec résignation. Pour travailler, je couvrais toujours ma robe d'une blouse blanche comme neige et ce matin-là, en m'amusant, je m'étais légèrement poudré. Mes cheveux soufflés n'avaient jamais été plus blonds et plus légers. Baladier m'examinait de la tête aux pieds. « Vous avez un air plus aérien qu'à l'ordinaire. Cet air a vivement frappé ma mère. »« Oh, aérien ! Demandez à M. Dubarral s'il me trouve aérienne quand je dîne ou déjeune. » L'opinion de M. Dubarral, je m'en moque, me dit-il avec une stupéfiante irrévérence pour son idole. J'en perdis le souffle et pris en silence le grimoire qu'il tenait encore. « On vous a comparé à une mouette, me dit-il, comparaison très juste. Lorsque je vous vois, j'ai toujours envie d'ouvrir la fenêtre pour vous donner la volée. » « Encore 5 mois et je la prendrai. 60 jours de vacances, c'est très beau. » Je me retirai dans mon nid, mais je n'y étais pas depuis un quart d'heure que Baladier frappait à ma porte et, sans invitation, s'asseyait sur l'unique siège, en plus du mien, qui composait mon mobilier cellulaire. Tremblante, car je redoutais un grave événement, je m'efforçai d'amener un dérivatif. « Voyez, » dis-je en montrant un journal à M. Baladier. « Quoi donc ? Ce journal, ces articles, vous dites que les banquiers malhonnêtes n'existent plus. Lisez, 2 fripons en fuite. » « Je sais, des petits banquiers de 10e ordre. » Et son pied parut écraser un ciron. Je tombai en méditation. Ce dédain des grands chiffres pour les petits me pétrifiait. « À quoi pensez-vous ? Me dit-il, avec votre air perplexe. « Au dédain des grands chiffres pour les petits. » « Qu'appelez-vous les grands chiffres ? Les grands ou gros banquiers ? Ah, je comprends, dit-il en souriant. Mais le sourire fut très fugitif et Baladier me contempla avec des yeux désolés. « Je n'aime pas vous voir si triste, dis-je spontanément. Vous l'aimeriez encore moins si c'était M. Saint-Audon. » Il ne manquait plus que sa jalousie pour m'achever. Oui, vraiment, il était jaloux. Et comment ? Pourquoi ? Car ma réserve devant M. Saint-Audon était toujours parfaite. Jamais je ne parlais de lui, si ce n'est pour dire des insignifiances. C'est bien triste d'être seul, de n'avoir pas auprès de soi une mère vigilante et tendre qui voit ce que vous ne voyez pas, qui, doucement, vous indique les convenances, réprime vos légères erreurs. C'était une erreur d'insister sur la tristesse de Baladier, de ne pas dissimuler que je m'en attristais moi-même. « Que vient faire ici le nom de M. Saint-Audon ? » dis-je en grimpant sur mes plus grands chevaux. « Oh, rien, une idée sotte !»« Très sotte » appuyai-je résolument. La réponse lui plut et j'attendis. Il ne s'était pas installé en équilibre sur un siège étroit sans une arrière-pensée et, quoique la porte fût restée ouverte, je commençais à juger que ce long tête-à-tête était incorrect. « Vous méprisez l'argent, mademoiselle Rita ?» « Non, je n'en ai pas assez pour cela. »« Ah, je croyais. Vous jugez si sévèrement les gens qui en gagnent. Vous avez contre eux une véritable animosité. » Parce qu'ils exagèrent, parce qu'ils s'absorbent, s'enlisent dans leurs idées, surtout parce que leur compromission blesse mes vues sur l'intégrité. « Ici, on est parfaitement intègre, sachez-le, mademoiselle. » « C'est possible, mais les conversations que j'entends soulèvent des doutes. Parmi les hommes que j'écoute discuter, je crois que plusieurs subordonnent l'honnêteté à leur paix avec la loi. »« Eh bien ?»« Loi et conscience font 2, » répondis-je avec ténacité. « Nirez-vous que vous n'avez pas tous quelques petits, ou plutôt gros mensonges, à vous reprocher ?»« Oh, des mensonges, pas plus souvent que lorsque vous donnez l'ordre de dire que vous êtes sorti. Alors ?» Cette réponse ne fait aucun mal, interrompis-je, tandis que vos mensonges peuvent avoir de graves conséquences. Mais, dit-il en réfléchissant, je ne me rappelle pas avoir tant menti. Vraiment ? Mais non, si on me consulte, je dis ce que je crois être vrai. Si je me trompe, c'est inconsciemment et sans vouloir tromper ceux qui s'adressent à moi. Je baissai les yeux pour ne pas laisser voir ma perplexité. Vous avez, je crois, reprit-il, des scrupules exagérés, mais je les aime. Je ne vous demande pas où vous les prenez, car je le vois. Ils viennent de la source enchantée qui jaillit d'un cœur jeune, pur et d'une droiture sans ombre. Cette opinion était loin de me déplaire. Mais ici, pas de compromission, je le répète, dit-il avec autorité et un grand geste qui chassait évidemment une mouche importune. Puis il revint à son idée. Croyez-vous qu'en voyant souffrir les siens par manque de fortune, on doive la mépriser si facilement ? Mépriser la fortune est une horrible bêtise, dis-je crûment. Mais quand on ne peut pas en avoir, on s'en passe, on s'arrange. On ne gémit pas perpétuellement. Ah, vous croyez que je n'aime pas la fortune ? Eh bien, personnellement, je voudrais être milliardaire. C'est curieux. Et que feriez-vous de votre milliard ? Ce que j'en ferais ? Ah, quel rêve merveilleux ! Je soutiendrais les grandes, les nobles choses de l'intelligence. Je donnerais à pleine main aux écoles qui forment les grands esprits, les artistes, les savants. Je donnerais pour permettre à l'idéalisme de suivre sans souci sa voie sacrée pour développer ce qu'on a si justement appelé la parure d'une nation. Il m'écoutait bouche bée et sa bonne figure changeait d'expression de façon amusante. Pendant qu'il réfléchissait, je réfléchissais de mon côté. La question d'argent, comme il l'avait posée, jetait une lumière agaçante sur ma propre situation, sur une masse de petites choses qui s'agitaient parfois dans mon âme et que je foyais de mon mieux, mais elles s'obstinaient à se redresser au moment où je les croyais tout à fait inoffensives. M. Balladier reprit avec une émotion contenue « Avec de l'argent, vous ne passeriez pas une partie de votre existence dans un coin si mesquin, si peu approprié à vous, mais au milieu des élégances, des fleurs, du soleil. » Cette idée me transporta. Je serrai les bras, comme si je pressais une forme vivante sur mon cœur ravi. « Dans ma chaumière, m'écriai-je, dans ma chaumière. Si vous la voyez, pas de dorures, pas de meubles somptueux qui vous regardent du haut de leur grandeur, mais un je ne sais quoi qui vous attire, vous plaît, vous enveloppe. » « Dans votre chaumière, » répéta-t-il gravement. « Voulez-vous m'épouser, mademoiselle Rita ? Je vous aime, vous le savez bien. Vous l'aviez deviné, n'est-ce pas ?»« Je le pensais, » fis-je modestement. « J'en étais sûr. Vos jolis yeux, souvent si candidement étonnés, voient des choses plus cachées que mes sentiments. » En ce moment, il passa la main sur son front d'un air préoccupé. « Épousez-moi. Je ferai tout pour vous rendre heureuse. » Il était sincère, sincère, tout tremblant d'émotion. L'amour dans ce petit trou, devant une machine à écrire. C'est bien beau, l'amour. Il mène le monde, il le mène même de travers, mais je lui supposais une expression différente. Pourtant, un sentiment si vif, si vrai, me touchait jusqu'au fond de l'âme. Il m'aimait, et moi, hélas, je ne l'aimais pas. Pauvre Balladier! Il y avait aussi ce nuage qui embrumait mon opinion sur lui, malgré sa bonté et son amour. Il attendait patiemment, en suivant sur mes traits le reflet de mes pensées, du moins de celles qui se pouvaient deviner, et son front s'embrumait. « Eh bien, dit-il, voulez-vous ? » Je donnai à ma voix sa plus suave intonation afin d'adoucir la réponse. « Je vous remercie, oh, de tout cœur, dis-je en lui tendant les mains. « Mais je ne veux pas, je ne puis pas. Je ne suis pas aussi chiffre que vous croyez. Je le sais, je le vois bien. Je vous suis infiniment reconnaissante. C'est bien bon à vous de vouloir épouser une jeune fille sans rien. Est-ce qu'il s'agit d'argent ? » dit-il impatienté. « J'en ai pour quatre, j'en aurai quatre fois plus ou quatre fois moins que je vous épouserai si vous le vouliez bien. Mais vous ne m'aimez pas. » « Pas du tout, » dis-je navré. « c'est-à-dire j'ai de l'amitié pour vous, j'en aurais encore plus sans... » Je tournai court comme un âne mal dressé. « Pardonnez-moi, » ajoutai-je presque en pleurant, « je suis désolé, désolé de vous faire de la peine. » Il avait pris mes deux mains, il les laissa retomber avec le doux mouvement d'une femme. « Laissons tout cela et demeurons bons amis. »« Avec joie !» dis-je en sanglotant. « Alors ne pleurez plus. »« Non, je ne pleure plus !» dis-je en sanglotant de plus belle. Et je me sauvai dans ma chambre. Quoi, un aveu avait-il toujours un caractère aussi pénible? C'était donc là la joie d'être aimé, de recevoir une déclaration? Ma première déclaration, car celle qui m'avait été faite à Nantes par un enfant de 20 ans, ne comptait pas, malgré un nom pompeux qui s'étalait dans l'armorial breton et que, du reste, j'aurais bien aimé porter. Pauvre baladier, je passais sur mes yeux tampon mouillé sur tampon mouillé, mais ses jolis yeux, comme il les appelait, s'obstinaient à verser des larmes de pitié, de remords, bien que je n'eusse aucun motif d'en avoir, de... Après tout, oui, de regret que ce ne fût pas Saint-Audon qui m'eût tenu les mêmes discours. La déraison est grande quand le cœur divague. Je me répétais souvent que M. Saint-Audon épouserait Noël, fille charmante et riche. C'était pour lui une perfection de mariage. Quel espoir imbécile vivait donc au fond de moi-même. Il est vrai que je lui plaisais, balançait-il entre nous. Il n'adressait une cour évidente ni à l'une ni à l'autre, mais il aimait notre société et déployait devant nous le charme de son esprit, de ses sentiments élevés, de ses goûts délicats. Je déjeunai seul en deux temps et retournai une heure dans ma chambre où, transformé en animal ruminant, ma solitude me parut pesante. Chez Noël, peut-être aurais-je été entraîné à lui confier mon aventure, indiscrétion dont, pour plusieurs motifs, je me serais difficilement consolé. Son blâme eût été complet, virulent. Que pouvais-je alléguer comme raison de mon refus? Noël et sa mère chantaient sans cesse les louanges de baladier. Elle le classait dans les parties superbes, et moi, petit oiseau sans plumes, je veux dire sans argent, sans foyer, je balayais sans hésiter une demande si flatteuse. Un coup discret à ma porte troubla mes réflexions, et Stéphanie me remit un billet après avoir jeté sur mes yeux rouges un regard froid et dédaigneux. En service depuis 30 ans dans une maison où la richesse s'entassait, elle se croyait faite elle-même d'un métal précieux. « Ne vous affligez pas, me disait Baladier, je vous aime comme un fou, c'est vrai, mais je lutterai pour surmonter l'épreuve. Qui sait? Que réserve l'avenir? Qui affirme que votre joli regard ne me sourira pas un jour? Alors, je vous emporterai en Italie, ce pays de vos rêves, et nous vivrons des jours de bonheur que vous n'oublierez jamais, jamais. Pardon, je recommence à m'égarer. » Que ma démarche ne détruise pas nos rapports amicaux. Vous voulez bien, n'est-ce pas? Je reste en ce moment votre ami, rien de plus. Si vous me demandez des services, vous ferez un heureux. Sans attendre une minute, reprenons nos relations d'avant. De nouveau, mes larmes ruisselèrent. Quels que fussent ses agissements en affaires, Baladier était bon et il avait raison de faciliter sans tarder la reprise de nos rapports. Je me précipitai dans mon trou. Une heure plus tard, il était exactement 2h15, j'allais dans le bureau de Baladier pour lui remettre moi-même une dactylographie soignée. Il la reçut de la façon la plus naturelle. Son pauvre visage était altéré, le mien tout bouffi, mais nous étions solidement établis sur nos positions. J'aime ce courage, et sans mes doutes, sans le brouillard qui défigurait ce bon visage, brouillard dans lequel une légère trouée s'était déjà faite, Baladier aurait singulièrement grandi dans ma pensée. Je ne revis M. Dubarral que dans l'après-midi du lendemain. Il avait été retenu au Havre par une grosse affaire. Il me dit « Comment, Rita, vous avez repoussé la demande de Baladier ?»« Vous savez ?»« Sans doute. » Je trouve étonnant, blessant pour moi, qu'il vous en ait parlé sans ma permission, m'écriai-je indigné. Par exemple, depuis votre entrée chez moi, je considère que vous êtes un peu sous ma tutelle, petite. Madame Baladier m'a parlé avec sympathie du projet et j'ai conseillé à son fils de vous parler directement. Il est resté longtemps sans l'oser. Pourquoi refusez-vous cet excellent garçon ?
Je ne l'aime pas.
Vous ne l'aimez pas ? Eh bien, vous l'aimeriez. On s'attache toujours à un honnête homme qui vous aime, surtout quand on a une bonne nature, et vous avez une bonne petite nature, Rita. Épousez-le, croyez-moi.
Votre manière de voir n'est pas la mienne, dis-je en simulant une froideur bien loin de mes dispositions, et je n'ai aucun désir d'épouser M. Baladier, puisque je ne l'aime pas.
Est-ce votre seule raison ?
Non.
Laquelle alors ? Puis-je savoir ?
C'est mon secret.
Il haussa les épaules en me regardant avec attention. Je soutins vaillamment son regard et, le saluant, je m'en allai tapoter. Ce même jour, j'acquis la certitude que réclamaient si souvent mes secrètes pensées. Une lettre que je recopiai, avec injonction de la terminer par une formule des plus polies, attira d'abord mon attention, attention de moins en moins distraite depuis quelque temps. Je venais d'écrire la dernière ligne et, n'étant plus assourdi par le claquement insipide, j'entendis M. Dubarral, qui causait avec M. X, dont j'ai déjà parlé, prononcer le nom de M. Saint-Audon. J'avoue que je tendis aussitôt l'oreille. M. Dubarral, dans son immense indifférence pour mon entendement obtus, n'avait même pas fermé ma porte.
Saint-Audon, n'y a-t-il pas un critique d'art de ce nom ?
C'est lui-même.
Un homme des plus connus et des plus intelligents, m'a-t-on affirmé.
Très supérieur dans toutes les branches de son métier.
Je faillis bondir. Un métier, l'art, l'érudition, la pensée, le sens du beau.
J'ai cru voir que sa méconnaissance en fait de finances est assez grande. Il a longuement causé avec moi avant son départ pour l'Italie et n'a pas rejeté ma proposition. Il me donnera réponse à son retour très prochain. Avant de prendre une décision, il s'informera.
Je le lui ai moi-même conseillé, mais sa confiance en moi est complète, répondit négligemment M. Dubarral.
Nous savons que l'entreprise offre des dangers, mais elle peut réussir, ou tout au moins ne pas sombrer. J'ai conseillé à M. Saint-Audon d'engager 200 000 francs, et la somme dont il dispose est beaucoup plus élevée.
Consentira-t-il à donner son nom comme membre honoraire ? Nous avons besoin de noms connus parfaitement honorables pour nous appuyer et attirer les actionnaires.
Ceci est plus délicat, cependant il n'a pas dit non et j'espère le décider.
Et M. Baladier ?
Il ne marche pas, malgré son admiration pour mes capacités et mon expérience. Il me l'a répété hier en manifestant son étonnement que je me sois décidé à donner mon patronage en avançant quelques fonds. Mais vous savez qu'il ne s'est pas dérobé pour l'autre affaire. Lui aussi est un peu naïf et bené. Enfin, j'espère que sa confiance en moi ne...
En ce moment, s'apercevant que ma porte était entr'ouverte, M. Dubarral vint la fermer et je repoussai ma machine avec dégoût. J'ignore si tout le monde est comme moi, mais lorsque j'ai vu le lait moral, je me rejette dans l'excès contraire. J'évoque les belles qualités humaines, je les place dans un cadre de poésie et je me repose.
Que voulait-il dire pour Baladier ? Un métier ? Et attirer dans une affaire douteuse un homme confiant, sans expérience des affaires ?
Nous verrions bien.